Soigner et protéger. Pourquoi ce titre? De quoi est-ce que je vais vous parler? D'amour, tout simplement. Je dis tout simplement, mais c'est tellement compliqué que, de nos jours, on s'égare complètement dans les définitions, si bien que plus personne ne sait ce que c'est. Voilà pourquoi cet enseignement s'appelle « Soigner et protéger », parce que je veux aller plus loin avec vous dans cette définition de l'amour. Qui aimons-nous? Pour beaucoup, l'amour est passionné, l'amour est formé de sentiments et il va et vient au gré de la vie. Il arrive que certaines personnes aient de l'amour l'un pour l'autre et que, soudainement, cet amour disparaisse, comme un magicien qui s'évanouit dans un nuage de fumée, comme par magie. Dans ces conditions, on en vient à se demander si la personne qui disait nous aimer nous a déjà aimés, ou si tout cela n'était qu'une illusion. Bien souvent, il arrive que cela n'était qu'une question de point de vue, de perception de la réalité. L'amour était-il là? Peut-il disparaître? Si oui, qu'est-ce qui l'a fait disparaître? À cela s'ajoute encore une autre série de questions existentielles, souvent troublantes, parfois formatrices. Plusieurs coupables sont pointés du doigt. Le manque de temps, le travail, les idées reçues dans la société, nous-mêmes, l'autre, les distractions, les péchés et les désirs, etc. Mais qu'en est-il de l'amour envers les autres, les amis, les collègues, la famille, les enfants? Nous sommes d'accord avec le fait que nous aimons ceux qui nous font rire au travail ou ceux qui nous rendent service. Nous aimons nos parents qui nous ont soutenus et élevés. Nous aimons nos enfants qui nous ressemblent et que nous avons vus grandir, dont nous avons appris à aimer le caractère et dont nous avons la charge. Nous aimons nos frères et sœurs parce que nous avons partagé toutes sortes d'aventures et de mésaventures avec eux, qu'ils nous connaissent mieux que personne. Mais que se passe-t-il avec la personne déplaisante qui ne voit jamais le bon côté de la vie et qui nous énerve sans cesse avec sa frustration et son amertume? Nous n'irions sûrement pas aller prendre un café avec elle. Elle pourrait bien nous ennuyer avec ses malheurs pendant des heures sans jamais s'épuiser. Ah oui, cette personne qui est toujours agressive avec nous, qui nous répond comme si nous étions un déchet. Nous allons changer de table si elle vient manger près de nous, ou nous allons changer de trottoir si nous la rencontrons dans la rue. Nous ne nous donnerons sûrement pas la peine de la saluer, ou encore moins de s'informer de sa santé et de celle de sa famille. En supposant que vous arriviez à aimer cette personne de tout votre cœur, seriez-vous capable d'aimer l'agresseur de votre fille? L'homme violent qui frappe ses enfants? Le meurtrier de votre frère? Le pédophile qui, lui, quelqu'un veut l'aimer? Quelqu'un peut-il l'aimer après tout le mal qu'il a fait? L'inviteriez-vous dans votre maison? Mangeriez-vous avec lui? Partageriez-vous le message de l'Évangile avec lui? Je ne conseille à aucune victime de fréquenter leur agresseur, tout simplement parce que la charge émotionnelle est souvent trop difficile à porter. Je vous demande seulement si vous seriez capable d'aimer une personne qui fait le mal et ou qui a fait quelque chose de très grave. Par exemple, seriez-vous capable de visiter des prisonniers en prison? Des gens qui ne sont pas dans votre famille et qui ne sont pas d'anciens amis, mais bien des étrangers ayant commis divers crimes graves. Jésus nous demande bien plus. Par l'exemple de sa vie, il nous demande d'aimer jusqu'au sacrifice de soi. Il nous dit « qui aimer ?» Lisons ensemble Matthieu 5, 43-48. Nous avons appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. OK, donc nous devons aimer tout le monde, même les méchants. Mais alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que l'amour exactement? L'amour est-il fait d'émotions ou d'actions? Tournons-nous vers la parole de Dieu pour étudier certains passages. Tout d'abord, le très célèbre 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On peut voir dans ce passage que l'amour est plus grand que la connaissance, plus que les manifestations spirituelles. Mais il est également plus que l'action de donner, puisque dans le verset 3, il est bien dit qu'il est vain de donner toutes ses possessions si nous n'avons pas l'amour. L'amour est une disposition du cœur à penser du bien, à être patient, doux, plein de bonté, modeste, honnête et plus encore. Relisons ensemble les versets 4 à 7. Donc 4 à 7, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. À la lecture de ces passages, il semble bien que l'amour est tout cela en même temps et pour la même personne. On peut donc dire que nous aimons quelqu'un si nous arrivons à avoir cette même attitude et ce même comportement avec lui. La définition du dictionnaire de la bonté dit ceci: disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant et charitable. Tandis que la bienveillance est la disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. D'autre part, la modestie nous conduit naturellement à échanger avec l'autre personne, à écouter ses arguments et à apprendre de lui. La modestie nous mène à nous ouvrir à l'autre plutôt que de vouloir à toujours avoir raison. C'est l'orgueil qui est à l'origine de beaucoup d'incompréhensions, de disputes et de blessures. Dans un autre passage, il est question du fruit de l'esprit, qui est la démonstration de notre filiation avec Dieu. Lisons Galates 5, 22, 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Avez-vous remarqué l'usage du singulier? Le fruit de l'Esprit. L'amour fait ici partie prenante d'un tout qui, en fait, combine tous les attributs cités précédemment dans le passage de 1 Corinthiens 13. Il s'agit d'une énumération des caractéristiques de la charité. Je crois qu'il est nécessaire de définir la charité et les attributs du fruit de l'Esprit afin de faire comprendre aux gens qui lisent la parole de Dieu qu'aimer quelqu'un est plus qu'avoir des mots d'amour. C'est avoir une disposition du cœur axée vers la recherche du bien-être de l'autre, mais aussi un cœur modeste et disposé à apprendre de l'autre. Dieu, dans une prophétie d'Ésaïe, décrit ce que nous devrions faire pour honorer Dieu et lui faire plaisir. Il est fait référence au véritable jeûne, ce que Dieu attend de nous lorsque nous recherchons et cherchons à lui plaire. En lisant le prochain passage, gardez à l'esprit qu'il s'agit ici de démontrer le caractère de Dieu et de son amour pour tous. Lisons Ésaïe 58, donc Ésaïe 58, 5 à 14. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbé la tête comme un jonc, où il se couchait sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que j'appellerais un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière, ta lumière, poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dans ce passage, Dieu insiste sur le fait qu'il ne prend pas plaisir à ce que nous soyons humiliés et pliés devant lui. Il prend plaisir à nous voir accomplir sa volonté, et sa volonté est que nous soyons bons et bienveillants envers tous. Mais plus qu'une disposition du cœur, il veut voir des actions. En échange de quoi viendra la bénédiction de Dieu et sa guérison? Il y a tant de choses à dire sur ce passage, nous pourrions faire plusieurs prédications seulement sur le vrai jeûne. C'est risque, c'est riche, c'est vrai et c'est bon. On y retrouve plusieurs exemples d'actions concrètes que nous pouvons poser pour bénir les autres et entrer en relation avec eux. C'est véritablement la bénédiction de Dieu pour ceux qui font la volonté, sa volonté, et que nous délions les liens. Bénissons les opprimés et les pauvres, mais également que nous soyons en paix avec tous. Cette fois, je veux attirer votre attention sur l'exemple d'amour donné par Jésus-Christ. Lisons Jean 15, 9 à 17. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Au verset 13, Jésus affirme qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Par l'exemple de sa vie, nous pouvons affirmer que l'amour n'est pas que des paroles. Ce n'est pas qu'une disposition du cœur, mais également une mise en action de ce qu'il y a dans le cœur. Cette mise en action implique l'application de principes et d'enseignements reçus par égard pour ceux qui les ont transmis, mais dans ce cas-ci, Dieu, Père et Fils. Lequel demande à ce que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous a aimés, jusqu'à se sacrifier pour nous. Maintenant, comment avoir de l'amour pour tous? L'amour n'est pas une émotion, mais bien une disposition du cœur à l'égard de l'autre. Dans la plupart des passages lus précédemment, cet amour se travaille, il naît dans l'action et dans le changement de perspective. L'apôtre Paul, dans Galates 5, insiste sur l'importance de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, au verset 16. Il décrit ensuite une série de mauvais comportements qui sont l'exact opposé de la définition de la charité qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13. Pour éviter ces comportements, il écrit bien: « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il ne s'agit donc pas d'être infusé du Saint-Esprit et de passer 12 heures par jour dans la prière pour recevoir une révélation divine de la nature de son amour et de sa volonté. Il s'agit de marcher selon l'Esprit, de poser des gestes concrets tous les jours. C'est une façon de vivre. Comprenez-moi bien, je suis de ceux qui croient que Dieu peut nous donner de l'amour pour les autres, qu'il peut en effet disposer votre cœur à avoir de la bienveillance envers les autres. Mais comme l'amour n'est pas un sentiment, vous n'aurez pas les palpitations cardiaques en voyant un sans-abri. Et vous ne serez pas, peut-être pas ému de compassion et disposé à lui venir en aide. » De la même manière, vous ne serez pas transporté d'allégresse en apercevant une personne qui a fait du mal dans le passé, mais vous aurez sûrement assez de bonté en vous pour lui parler avec bienveillance. Je sais, je l'ai expérimenté personnellement. L'amour est aussi façonné en nous à travers notre perception de nous-mêmes et de l'autre. Notre regard sur les autres doit être examiné. En d'autres mots, étudions attentivement nos comportements et nos pensées lorsque nous rencontrons une autre personne. Comment voyons-nous l'autre? Comme une personne indigne de prendre de notre temps? Comme une personne méprisable parce qu'elle ne pense pas exactement comme nous? Ou parce qu'elle n'a pas les mêmes principes de vie que nous? Est-ce que nous nous méfions des autres? Est-ce que nous évitons les incroyants parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances? Est-ce que nous nous irritons contre nos enfants parce qu'ils nous désobéissent ou parce qu'ils ne rangent pas leur chambre? Voici donc quelques indices d'un manque d'amour. L'impatience, l'indifférence, la jalousie, l'orgueil, la prétention, l'injustice, la malhonnêteté, rechercher son intérêt, soupçonner le mal, se réjouir de l'injustice, le mensonge, etc. Un remède à tous ces mauvais comportements et mauvaises attitudes serait de voir chacun comme précieux et digne d'être aimé. Il s'agit de voir l'autre comme une créature de Dieu, merveilleuse et infiniment exceptionnelle. De se souvenir chaque jour que cette personne est aimée de Dieu et que Christ est mort pour elle. Qu'elle veuille accepter ou non de le suivre ne change rien à l'amour de Dieu pour elle. Il s'agit vraiment de changer sa perspective de l'autre et de rechercher à appliquer dans notre vie les principes divins. Changez ce que vous voyez. Il faut voir Jésus-Christ en chacun de nous parce qu'il est mort pour chacun. Parce que vous faites à l'un d'eux, vous le faites à Christ aussi. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ dans Matthieu 25, 34, 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons recueilli ou nu et t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, du plus petit de vos frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Encore une fois, Galates 5, 16, « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vous encourage donc à prier pour que Dieu transforme votre cœur, mais surtout, de travailler vous-même à agir selon sa parole. Maintenant, comment démontrer de l'amour? Démontrer de l'amour peut être par une parole douce et bienveillante, un encouragement, un conseil respectueux. Cette forme d'amour est la plus passive. Si vous voulez véritablement agir, mettre l'amour en action, il faut sortir de votre zone de confort et entrer en relation véritable avec la personne. Ce que l'amour vous amènera à faire sera de parler avec la personne et de lui demander de ses nouvelles. Vous ne vous contenterez pas d'un « comment ça va » et de la réponse habituelle. bien. Vous irez plus loin en demandant si cette personne veut venir manger avec vous. Chez vous, pas au restaurant. Ou encore, si elle veut prendre le thé ou le café avec vous. Souvenez-vous que pour aider, il faut connaître les besoins de l'autre. Et pour connaître ses besoins, il faut connaître la personne et sa vie personnelle. Regardez autour de vous. Qui sont les personnes qui ont le plus besoin de votre aide? Les gens qui n'ont plus de famille, les personnes âgées, les enfants de familles brisées, les pauvres, les familles monoparentales, les célibataires, les immigrants. Invitez-les chez vous. Partagez un repas avec eux. Pas besoin de leur servir de filet mignon. Donnez ce que vous avez. Souvenez-vous du vrai jeûne d'Ésaïe 58. Ces groupes de personnes souffrent souvent de la pauvreté et de la solitude. Montrez-leur de l'amour de Dieu, en agissant concrètement dans leur vie. Je peux vous dire tout de suite que si vous n'avez pas besoin d'une révélation du ciel pour savoir qu'une mère monoparentale a besoin de prendre un café avec une amie, vous n'avez pas besoin non plus de recevoir une vision du ciel pour savoir qu'elle a aussi besoin d'une gardienne. Que faire des personnes atteintes de maladies mentales et des personnes vraiment ravagées par une blessure psychologique ou émotionnelle? Vous ne pouvez pas les psychanalyser. Vous n'êtes pas un psychanalyste. Vous n'êtes pas un thérapeute. Ils doivent aller chercher l'aide psychologique dont ils ont besoin. Mais vous pouvez leur apporter ce que le psychologue et le psychiatre ne pourront jamais leur apporter et ce qui leur fera certainement beaucoup plus de bien que n'importe quelle thérapie du monde. Vous pouvez les aimer et être leur ami. Les personnes atteintes de maladies mentales en particulier sont vraiment les lépreux de notre société. Ils sont mis à l'écart, insultés, méprisés et victimes de violences beaucoup plus que les autres groupes de personnes. Ils sont à très haut risque de porter atteinte à leur propre vie. Ils vivent très souvent une solitude écrasante et une honte qui les paralyse. Ces personnes sont probablement ceux qui ont le plus besoin de votre aide et sont ceux qui en bénéficient le moins. Une personne souffrant de maladie mentale n'a pas besoin que vous soyez son thérapeute. Elle veut pouvoir partager sa souffrance avec un ami. Elle veut que quelqu'un lui dise qu'elle a de la valeur, qu'elle n'est pas qu'une maladie ambulante. Elle a besoin qu'on écoute ses mésaventures sans la juger et qu'on l'aide à guérir de ses blessures émotionnelles. Elle ne s'attend pas à ce que vous compreniez tout, mais elle s'attend à ce que vous l'aimiez assez pour écouter patiemment et que vous l'aidiez à surmonter sa honte et les épreuves qu'elle traverse. Je pourrais vous dire que si vous faites le bien, vous amassez des trésors dans les cieux. Mais je crois qu'on ne devrait pas avoir besoin d'une carotte devant soi pour avancer. Nous devrions tous faire le bien pour plaire à Dieu et pour prendre soin des gens autour de nous. Pourquoi? Par amour pour eux. Parce que si nous le faisons, ce sont eux les trésors que nous amasserons au ciel. Eux, ces gens merveilleux et infiniment précieux que vous conduirez à Christ par votre dévouement et votre désir de mettre en pratique la parole de Dieu. Je termine cet enseignement par la lecture d'Actes, chapitre 2, versets 44 à 47, qui raconte ce qu'était l'Église primitive. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen.